RFI, 1h à Paris, 23h en temps universel. Merci d'avoir choisi la Radio du Monde pour vous informer. Voici tout de suite un nouveau point sur l'actualité de notre planète.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de ce samedi 12 octobre 2024, dans le sud du Liban, la force onusienne à nouveau prise sous le feu de l'armée israélienne. Deux casques bleus ont été blessés, dont un gravement, dans ce qui ressemble à un acharnement et qui suscite l'indignation de nombreux pays défendant la force onusienne sur place. Volodymyr Zelensky poursuit et achève sa tournée européenne par la capitale allemande, où il a été reçu par le chancelier Olaf Scholz, qui a promis que le soutien de Berlin ne ferait pas défaut à l'Ukraine. Kiev craint pourtant un essoufflement. Et puis le prix Nobel de la paix 2024 a récompensé l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, qui milite pour l'abolition des armes atomiques. Et ce n'est pas un hasard en ces temps où la guerre ressurgit partout et où le tabou nucléaire semble s'effriter. C'était en direction, je cite, d'une menace que l'armée israélienne a tirée près d'une position des casques bleus au sud Liban ce vendredi. Explication de Tel Aviv après que l'ONU ait révélé que des casques bleus avaient été pris pour cible par des tirs israéliens. Deux soldats de l'ONU, des Sri Lankais, sont blessés après que déjà jeudi, deux soldats indonésiens avaient été blessés par des tirs israéliens. Des tirs qui provoquent en tout cas l'émoi de la communauté internationale, Théo Renaudon.
Intolérable, inacceptable. Les mêmes mots reviennent en boucle dans la vague d'indignation qu'ont provoqué ces tirs israéliens. Espagne, Italie, Irlande, Union européenne, Royaume-Uni, tollé international contre l'armée israélienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que ces tirs ne devaient pas se répéter. La France, elle, par la voix de son président Emmanuel Macron, juge que les casques bleus ont été visés délibérément par Israël. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne le tolérerons pas que ça se reproduise, a prévenu le chef de l'État. L'ambassadeur israélien à Paris a été convoqué. Des réactions jusqu'en Chine. Condamnation ferme, demande d'une enquête. L'Italie, elle, persiste et condamne encore, elle qui a déjà convoqué son ambassadeur israélien hier pour explication. Jeudi, Rome avait carrément parlé de crimes de guerre. Reste les États-Unis, à la question d'un journaliste lui demandant s'il demandait à Israël d'arrêter de frapper les casques bleus. Le président Joe Biden a répondu oui.
Théo Renaudon du service international de RFI. Et le président Macron en a profité pour réitérer son appel à bannir la vente d'armes pouvant servir contre Gaza, comme il l'avait fait il y a quelques jours, s'attirant les foudres de Benjamin Netanyahou, mais aussi pouvant servir contre le Liban. L'émissaire spécial du président américain Amos Hochstein a déclaré vendredi soir que Washington travaillait sans relâche pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais. En guerre ouverte depuis 3 semaines, nous voulons que tout le conflit prenne fin, a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision libanaise LBCI depuis Washington. Nous travaillons sans relâche sur le sujet, a-t-il encore dit. D'autant qu'au sud du Liban, 2 soldats libanais ont été tués, 3 autres blessés dans des combats avec les forces israéliennes. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, a appelé à un arrêt immédiat des hostilités et à un cessez-le-feu. Il a demandé à l'ONU en direct à la télévision une résolution en ce sens, affirmant que le Hezbollah était d'accord pour cette solution. Et pourtant, dans la soirée, 2 drones ont été tirés depuis le territoire libanais vers Israël, l'un ayant été intercepté et l'autre ayant occasionné des dégâts matériels à Herzliya. Et puis, toujours concernant les attaques israéliennes à Gaza cette fois-ci, la défense civile fait état de 30 morts ce vendredi dans des frappes sur Jabalia, où l'armée israélienne mène des opérations au sol depuis plusieurs jours. L'actualité en Europe maintenant avec Volodymyr Zelensky qui continue et termine d'ailleurs sa tournée sur le vieux continent. Après Zagreb, après Paris, Rome, le président ukrainien était ce vendredi en Allemagne pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Il a martelé à Berlin vouloir la fin de la guerre avec la Russie en 2025. C'est bientôt. Il appelle son partenaire allemand à ne surtout pas baisser son aide à l'Ukraine. Ukraine. Notre soutien ne faiblira pas, garantit Olaf Scholz. Volodymyr Zelensky continue donc la tournée de ses alliés pour s'assurer de leur soutien. Correspondance à Berlin, Pascal Thibault.
Volodymyr Zelensky espère aboutir l'an prochain à une fin de la guerre entre son pays et la Russie. C'est ce que le président ukrainien a déclaré au début de sa rencontre avec le chancelier Scholz. L'étape allemande de cette tournée européenne était également destinée à présenter le plan de paix élaboré par Kiev, mais aussi à renouveler les demandes régulières faites à l'Allemagne en faveur notamment de la livraison de missiles de longue portée. Une mesure que rejette Olaf Scholz, craignant une escalade du conflit. Le chancelier a tenu à rassurer son hôte alors que les aides militaires bilatérales de l'Allemagne à l'Ukraine doivent baisser de moitié l'an prochain.
L'Ukraine peut compter sur notre soutien. Notre message à Poutine est clair. Une guerre d'usure ne fonctionnera pas. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas.
Olaf Scholz a annoncé une aide à court terme de 170 millions d'euros pour aider l'Ukraine à réparer des infrastructures endommagées. Le chancelier a aussi évoqué un paquet d'aides militaires supplémentaires d'1 400 000 euros cette année avec la Belgique, le Danemark et la Norvège. Cela s'ajoute à 600 millions déjà annoncés par l'Allemagne récemment. Pascal Thibault, Berlin RFI.
RFI 1h06 à Paris, 23h06 en temps universel. Gaza, c'est comme le Japon il y a 80 ans. Voici la réaction des nouveaux lauréats du prix Nobel de la paix millésime 2024, à savoir Nihon Hidankyo, une organisation japonaise qui regroupe des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, que l'on appelle les Ibakusha, littéralement les personnes affectées par la bombe. Ces deux bombes atomiques larguées par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le Japon et qui inspire le groupe luttant contre les armes nucléaires. Et leur distinction par l'Académie Nobel ne manque pas de viser en creux les déclarations récurrentes d'un certain Vladimir Poutine. Joris Zilberman.
Le comité du Nobel a été clair. Le prix cette année met l'accent sur la nécessité de maintenir le tabou nucléaire. Nous avons tous une responsabilité, en particulier les grandes puissances. Un message qui s'adresse d'abord à Moscou et surtout à Vladimir Poutine, car cela fait 2 ans et le début de l'invasion russe de l'Ukraine que l'homme fort du Kremlin agite la menace nucléaire pour dissuader l'Occident d'aider Kiev. Et le mois dernier, Poutine a même changé la doctrine russe d'emploi de l'arme nucléaire. Elle pourrait désormais être utilisé notamment en cas de lancement massif d'attaques aériennes contre la Russie. On peut retenir aujourd'hui la déclaration du co-responsable de l'ONG japonaise qui a été nobelisée. Les armes nucléaires n'assurent pas la paix, a-t-il dit. Si la Russie les utilise contre l'Ukraine et Israël contre Gaza, poursuit-il, cela ne s'arrêtera pas là. Fin de citation. Le Nobel de la paix a déjà récompensé plusieurs fois les efforts pour interdire l'arme atomique avec récemment, en 2017, l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires.
Merci Joris Zilberman du service international de RFI. C'est le dernier venu dans la galaxie des voitures autonomes. Le Cybercab, le robot taxi électrique de Tesla à l'allure futuriste, a été présenté jeudi soir à Los Angeles par le propriétaire de la marque et milliardaire Elon Musk depuis les studios de Warner Bros. En public, bien sûr, avec la promesse d'une voiture à moins de 30 000 dollars, plus sûre que celle conduite par des humains. Et pourtant, la route est encore longue pour le constructeur avant de proposer ses taxis sans chauffeur au grand public. Justine Fontaine.
Tesla n'a pour l'instant aucune autorisation pour tester ses voitures autonomes sur le réseau routier. Son système d'aide à la conduite a par ailleurs été mis en cause dans des accidents mortels dans le passé. Mais Elon Musk, le patron de Tesla, espère fabriquer à grande échelle son robot taxi avant 2027. Une prévision optimiste, comme il l'a reconnu lui-même lors d'un événement organisé par le constructeur et retransmis sur les réseaux sociaux. Face aux caméras de l'entreprise et un public de fans déjà conquis, Elon Musk a fait quelques centaines de mètres dans un prototype de ce futur taxi autonome dans des rues fermées à la circulation. Une voiture aux lignes ultra simples, inspirée de films de science-fiction. Mais malgré l'apparence futuriste du véhicule, Tesla est en fait en retard sur ses concurrents dans le domaine des voitures autonomes. Waymo de Google ou encore General Motors avec sa marque Cruise proposent déjà leurs services dans quelques grandes villes américaines. Certains experts estiment qu'il faudrait attendre 2035 pour voir émerger une technologie réellement équivalente aux capacités d'un conducteur humain.
Merci Justine Fontaine. Bientôt 1h10 à Paris. Tout de suite, vous retrouvez C'est pas du vent.